Alors, on va écouter une des victimes, hein, par exemple, de ce système de coopératives. Richard qui nous a rejoint, et le troisième auditeur qui vient de nous rejoindre tout de suite là. Il y a Richard de Kinshasa, qui lui, il a été victime de deuil international. Alors, Richard, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour.
Vous nous avez appelé, vous avez dit que.
Bonjour à tout le monde. Bonjour. Félicitations aux intervenants.
Oui. Vous nous avez dit que vous avez été victime de ce système de coopérative au niveau de dette internationale. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu?
Oui. Nous avons été victimes. Chose drôle, la Banque Centrale nous a payé 21% de notre dû. Et il a payé ça, il a payé à tout le monde qui avait souscrit. Ça voudrait dire quoi? Des argumentations qui viennent d'être données prouvent que la Banque Centrale, quelque part, est complice de la gestion mafieuse qui se répercute sur les pauvres citoyens qui placent leur argent dans l'activité d'argent présentée officiellement par l'État.
Mais qu'est-ce qui vous a été dit, Dr Richard? S'il vous plaît, Dr Richard.
Oui, allez-y.
Qu'est-ce qui vous a été dit? Deutsche International fonctionnait statutairement, avec un argument, ou peut-être évoluer, comme l'avons dit ici, à l'électron libre comme d'autres coopératives?
Deutsche International évoluait avec... l'agrément de la Banque Centrale.
La Banque Centrale.
On nous avait montré les agréments. Nous avons même lettre de M. Caméré quand il était président de l'Assemblée nationale qui intimait l'ordre à l'ANER ainsi qu'à la police nationale parce que le ministre qui était à l'intérieur s'était mêlé personnellement de restituer l'argent du peuple. Donc, ils avaient des papiers officiels.
Voilà, donc jusqu'aujourd'hui, vous n'avez reçu que 21%. Donc si mes calculs sont bons, quelqu'un qui avait 100 000 dollars à recevoir, il n'a reçu que 21 000.
Voilà, 25 000. Et on nous dit maintenant d'aller à Kampala pour suivre M. Kpakpa.
D'aller à Kampala.
Voyez un peu le cynisme du fonctionnement de l'État à travers la Banque Centrale. Le peuple pauvre est appauvri par je ne sais pas quoi.
Alors pour vous, pour améliorer, en fait, la Banque Centrale propose le redressement d'ailleurs pour le cas du Mara, qui pourrait, il y a un autre auditeur qui a proposé que cela puisse s'étendre à d'autres coopératives aussi qui ont connu les mêmes difficultés. Question de redorer un peu cette image, hein, qui est l'image qui est ternie.
Mais justement, parlons même de la CADESA. Nous avons placé de l'argent à la CADESA depuis le Zaïre jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons rien tiré. Les copains qui s'étaient éparpillés dans le pays ici ont aussi notre argent. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça encore le problème. En dehors de cet élargissement de l'action de l'État sur les coopératives, il y a aussi la justice. Que monsieur le procureur de la République qui nous suit aussi peut-être se saisisse de ce dossier. On ne peut pas être dans un pays où les bandits se promènent calmement. C'est voilà. Ça le problème.
Bon, voilà, parce qu'il y a un flou, il y a une complicité à tous les niveaux. Bon, parce que on s'est dit, quand une coopérative est opérationnelle, sûrement il y a des suivis, comme je venais de dire, la loi bancaire est claire en demandant à la Banque Centrale de contrôler, de faire le suivi de l'existence de toutes ces coopératives. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Richard, de cette contribution. Nous allons prendre Étienne qui est à Guémena et Joseph qui est à Kindu. Étienne, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, Étienne. Votre point de vue.
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue l'invité. Merci. Je pense que, à ce qui concerne les coopératives, le microfinance, moi je pense qu'on doit vraiment chercher à redresser la loi sur la finance en République démocratique du Congo. Vraiment, comme vous avez suivi la plupart des auditeurs, il y a fistigé, qui déplore vraiment... la marque de transparence qu'il y a dans la plupart des coopératives. Ici, je voudrais un peu relever un problème qui me concerne personnellement et qui concerne le district du Kizubangu, là où je suis. Vous savez, monsieur le journaliste, Guémena est le chef-lieu du district du Kizubangu et c'est une ville parmi les villes de la province de l'Équateur qui est très économique. Mais nous sommes victimes de beaucoup de tracasseries par des entreprises de microfinance. Donc, en 2010, par exemple, il y a eu une entreprise de microfinance appelée Cebol, Copec Cebol, qui a été ici à Guémena. Vous imaginez, beaucoup de gens ont souscrit et ont été là dans ces aventures. Mais vous imaginez, les gens, il y a épargné de l'argent, les gens ont mis des montants vraiment colossales, et parce que c'est cette entreprise avait tous les documents et on en faisait confiance. Mais un jour, un bon matin comme ça, on
ils ont disparu dans la nature.
Que le bureau est fermé. On attend peut-être que vers 9h, ils viendront ouvrir le bureau, 48 heures passées, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de traces de ceux qui ont été venus ouvrir ce qu'on appelle ces boxes. Vous imaginez, monsieur le juge, c'est de l'irresponsabilité totale. Et là, nous rejetons la responsabilité à la base centrale. Parce qu'ils devraient évoluer sous la vigilance et sous l'œil vigilant, allais-je dire, de la banque centrale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus pauvres parce que avec le peu de mois qu'ils avaient pour nourrir leur famille, ils sont allés épargner et aujourd'hui, ils se retrouvent avec rien en main. Donc, c'est pour dire que vraiment, il y a beaucoup à faire et c'est comme l'auteur venait de dire, il y a même des complicités des grandes autorités de la République démocratique du Congo à ce qui concerne les entreprises de microfinance. Donc, moi, je pense, à mon avis, que s'il faut que les entreprises de microfinance puissent exister, mais que la Banque centrale prenne en main vraiment ses responsabilités. Vraiment que cela puisse travailler sous sa gestion et vraiment avoir de grandes lignes de conduite, des mesures vraiment de surveillance, ça aiderait. Mais sinon, vraiment...
Ça sera toujours le même problème. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup, Étienne. On va prendre Joseph qui est à Kindou. Joseph, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à notre invité, à tous les auditeurs de la radio Katrin.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Oui, mon point de vue est de dire que non, en tout cas. Si aujourd'hui nos coopératives commencent à détourner l'argent des clients, c'est la faute de l'État. Parce que pourquoi je dis que la faute de l'État? Aujourd'hui, si vous avez 100 dollars à une coopérative, vous avez même une probabilité d'avoir 300 dollars de crédit. Et les coopératives nous ont vraiment aidé à avoir des crédits pour nous faire sortir à la pauvreté. Va maintenant à la banque centrale, il faut suivre pour aller voir une banque centrale du Congo, aller demander un crédit. Vous pouvez avoir même 200 dollars pour demander un crédit. Là, vous n'aurez même pas 10 francs. Il faut avoir 100 000 et 10 000 et plus de dollars. C'est pour cette raison. Mais imaginez-vous même complètement ici à Kindou. Avec de beaucoup, les gens avoir des motos et tout qu'on sort, et ça nous va sortir à une grande pauvreté. Bon, aujourd'hui, s'il faut placer la confiance à la banque centrale, la banque centrale ne nous donne absolument rien. Elle prête à ceux qui ont de profondes connaissances, tellement que nous sommes pauvres. Nous allons là-bas à une coopérative, donner 100 dollars, ouvrir un compte avec un 100 dollars. Après 3 mois, vous avez un crédit de 300 dollars. Ça vous aide à faire de sortir à une pauvreté. Est-ce qu'il peut y avoir quelques mesures que l'État peut aussi prendre pour un peu faire sortir déjà à une pauvreté, à la population de grande pauvreté pour qu'ils ne sachent pas aller encore à des coopératives pour éviter de retournement? Parce que quand aujourd'hui on vous a détourné de l'argent, vous serez obligé à aller demander à l'État sera obligé à vous rembourser cet argent. Mais à des coopératives, on ne connaît pas même les propriétaires de cette coopérative, les fondateurs. Nous avons une coopérative aussi complètement. On ne sait pas les fondateurs de cette coopérative. S'il y a un détournement, vous voyez les agents tous sont partis, à qui vous allez s'adresser pour demander votre argent?
Merci beaucoup.
C'est ça notre souffrance.
Merci
et
beaucoup.
En tout cas, nous déclarons à l'État qu'ils peuvent nous donner aussi d'autres précautions pour avoir d'autres petites banques, parce qu'il y aura des détournements, vous allez s'adresser à l'État.
Tout à fait. Vous connaissez le fondateur est connu, et même le fondateur est connu, si c'est l'établissement public, au moins on sait à qui s'adresser. Merci beaucoup, Joseph, d'avoir appelé de Kindou. Alors, il y a eu des préoccupations aussi directes, Jean-Claude Tétika, c'est vrai, bon, d'aucuns se plaignent toujours la disparition dans la nature de tout cela qui ont fait des initiateurs de coopératives.
Bien, écoutez, je ne peux que comprendre la colère. Si j'étais client et que je devais perdre autant d'argent, je pense, à mon avis, que j'allais effectivement manifester cette crise de colère. Donc c'est tout à fait correct de leur part. Et je pense que tout ce qui est dit là, il y a un peu une part de vérité, même si ce n'est pas dit de manière technique, comme ça devait être exprimé. Mais je pense que l'idée générale qui est ressortie de toutes ces interventions, c'est de dire, écoutez les gars, si vous réglementez et que vous supervisez des institutions, vous devez nous donner la garantie que ces institutions ne vont pas tomber demain. Donc c'est une demande qui est tout à fait légitime et je pense que la Banque centrale essaie de faire des efforts, mais comprenez aussi, avec 160 institutions, la Banque centrale aujourd'hui n'a pas encore tout le moyen possible de tout superviser. Je ne suis pas en train de défendre la Banque centrale, mais je pense qu'un jour il faut imaginer un secteur qui aura un nombre réduit des acteurs, mais efficace et économiquement stable. Moi, je ne crois pas toujours à la multiplicité des acteurs. Moi, je crois plutôt à l'efficacité du nombre qui... Si j'ai 10 institutions de microfinance dans le pays et qui sont capables de pouvoir couvrir le pays et donner du crédit à plus de 30 millions de personnes, je pense que nous aurons un secteur beaucoup plus stable. Donc, il est important, et je pense que la Banque centrale est en train de réfléchir par rapport à comment faire même un réseautage de toutes ces institutions et les mettre et pour qu'on ait des institutions beaucoup plus fortes. Ça, c'est notre vision que nous avons toujours défendue au niveau du FPM, parce que effectivement, il faut penser que la transparence, la supervision ne peut pas être efficace lorsqu'on a un si grand nombre de coopératives et qui d'autres parfois échappent au contrôle. Donc, je pense qu'ils ont, c'est tout à fait raison. Mais alors. Maintenant, la question des remboursements. Quand une institution réglementée tombe en faillite, mais qui paye la facture? Normalement, effectivement, ce qui est reconnu, c'est la Banque centrale, c'est l'État qui prend. Mais en même temps, il faut comprendre aussi que notre pays...
la Banque centrale ne prend pas tout en charge
non,
pour
mais
l'état
la banque,
de dette internationale.
La Banque centrale, c'est ce que je veux dire. Comment les autres pays... Vous savez, on a parlé de la crise des subprimes aux États-Unis en 2008. Il y a une facture énorme. Le gouvernement est intervenu même comme actionnaire dans la plupart du capital des grandes banques pour pouvoir stabiliser. Vous savez que dans tous les autres pays, vous avez ce qu'on appelle un fonds de garantie, un fonds de garantie des dépôts. C'est-à-dire que la Banque centrale met de côté, demande à chaque institution de constituer un fonds qui est donné comme qui est mis à part, je l'explique un peu de manière terre à terre, qui permet à ce que la Banque centrale puisse avoir suffisamment de ressources au cas où il y a un qui tombe, il peut venir faire face, par exemple, ou plutôt de payer 25%, mais payer les 100% des gens parce que c'est la responsabilité du gouvernement de pouvoir le faire. Je pense que ça n'a pas existé dans le passé. Et aujourd'hui, je pense que le projet là est sur la table, de garantir quand même les dépôts et tout ça pour qu'un jour, les faillites, on les aura. Si des grandes banques comme Lehman Brothers aux États-Unis, avec une histoire tout à fait centenaire, ont craché, bon, peut-être parce qu'ils ont eu beaucoup de risques, ils sont entrés dans les banques d'investissement, ils ont vendu des bidons de titres qui n'avaient pas à être vendus, et tout ça. Et voilà, donc les risques des faillites, vous les avez dans tous les autres pays, même dans les économies les plus développées. Ça, c'est même le risque du métier. Maintenant, la question, il faut limiter ces risques. Effectivement, je suis d'accord avec les intervenants. Il faut augmenter la transparence, il faut augmenter l'intensité du contrôle de ces institutions, mais en même temps, lorsque les risques se déclarent, il faudra que la Banque centrale ait le moyen de pouvoir éventuellement payer la facture si les risques sont dus simplement à des effets environnementaux ou quelque chose comme cela. Et donc, ces garanties des dépôts, je pense que c'est quelque chose de très important et c'est un projet que la Banque centrale a déjà lancé aujourd'hui et plusieurs bailleurs de fonds sont en train de travailler avec elle pour pouvoir mettre ça en place. Comme ça, on peut sécuriser effectivement dans des cas tragiques comme ça pour que les peuples ne puissent pas manquer. Parce que imaginez, si les gens... Aujourd'hui, le système bancaire congolais a collecté autour de 3 milliards de dollars. Imaginez par un miracle, quelque chose arrive, que ces 3 milliards disparaissent. Ça signifie que vous avez au moins 1 million de personnes qui auront perdu leur épargne. Mais en même temps, vous imaginez ce que ça signifie? Ça signifie que les gens ne vont pas scolariser leurs enfants, ils ne vont pas aller à l'hôpital, et puisque la demande est un élément stimulant de l'économie, et donc ça va affecter énormément l'économie. Donc, maintenir un flot, une confiance ferme entre les secteurs financiers et la population est vraiment le gage même de la sécurité, de la stabilité de l'économie, de la croissance économique. Donc, c'est une question assez importante. Moi, je suis très inquiet quand je peux entendre des auditeurs comme ça manquer de confiance. Nous devons restaurer cette confiance et il faut restaurer la rigueur. Donc, ils ont raison.
Voilà, Jean-Claude Tetika, nous avons encore un quart d'heure à passer avec les auditeurs. On va revenir dans quelques instants pour évoquer un peu cet aspect de messagerie financière octroie aussi des crédits. Mais pourtant, la loi bancaire, disons l'article 5, interdit formellement à ces institutions d'accorder ces crédits. On va y revenir. Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous poursuivons avec notre magazine Parole aux auditeurs. Et je disais tout à l'heure, en application de l'article 5 de la loi bancaire, les messageries financières ne sont pas des établissements de crédit. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Ces institutions financières octroient tout de même des crédits, Jean-Claude Tetika.
Effectivement, je soutiens la loi. Je n'ai pas de connaissance, moi, que de messagerie financière puisse accorder des crédits. C'est pas leur métier, ça c'est tout à fait clair. Donc la loi est tout à fait claire là-dessus. À mon avis, si ça existe comme étant une pratique, effectivement, c'est une pratique qui n'est pas bonne parce qu'elles ne sont pas outillées, effectivement, pour entrer dans l'intermédiation financière. Ce sont des simples messageries financières qui font des transferts d'argent, qui reçoivent et qui les transfèrent à d'autres personnes. Donc ça, c'est leur métier. Donc ils ne sont pas des institutions de crédit. Donc je suis tout à fait d'accord. Donc voilà. Mais par contre, le monsieur, lorsqu'il parlait des messageries financières, en même temps, il était en train d'évoquer le fait que ces agences pullulent dans le pays. Lui, il les trouvait aussi un peu plus risqués autant que les coopératives. Et donc, de son point de vue, puisqu'il soutenait plutôt la présence plus de banques que des institutions décentralisées, et donc il disait aussi que voilà, j'aimerais bien faire un transfert bancaire plutôt qu'aller dans une messagerie financière. Il a raison, parce que naturellement, un transfert bancaire coûte moins cher par rapport à une messagerie financière. Mais par contre, la messagerie financière a le mérite aujourd'hui d'être dans le petit village très très loin où une banque ne se trouve pas. Donc, mais enfin, voilà, c'est pourquoi nous on parle aujourd'hui de la finance alternative. C'est-à-dire que on doit comprendre le niveau du développement du pays. Avec le coût des infrastructures, les banques n'ont pas la possibilité de s'implanter dans tous les recoins. Or, ces gens ont besoin de l'intermédiation financière. Voilà pourquoi il y a ces gérants des institutions. Maintenant, ils sont sous la réglementation de la Banque centrale. La seule chose, c'est effectivement de savoir comment on peut aider, comment on peut augmenter la surveillance pour qu'on s'assure que ce gars-là agisse dans les limites de règles de l'art. Donc ça, c'est clair.
Voilà, merci beaucoup. On va prendre cette dernière série des auditeurs avec Théodore qui est à Mboujimaï, Joël à Goma et Saïdi dans la même ville au nord qu'il vous. Alors Théodore, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour aussi à l'invité.
Alors, je disais tout à l'heure, la Banque Centrale du Congo est très engagée dans les redressements de la coopérative d'épargne de crédit Imara de Goma. Avec plus de 35 ans d'existence, cette coopérative d'épargne congolaise doit plus de 24 millions de dollars américains à ses clients. Faute de liquidités, la COPEC Imara a du mal à fonctionner aujourd'hui, donc depuis 7 mois maintenant. Nous relançons donc les débats sur la problématique de gestion des coopératives en RDC. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté chez vous à Mboujimaï quel regard avez-vous sur la décision de la BCC?
La décision est bonne, mais sauf que c'est un grand regret pour Imara. Avec 24 millions, c'est trop, c'est vraiment trop. Vraiment, ici, chez nous, à Mboujimaï, vous savez, quand on parle qui est dans les grands centres, bon, par exemple, pour les dépôts d'argent dans des banques commerciales, cela peut permettre que la banque, ou bien des banques commerciales, ou bien des coopératives, arrivent à servir leurs clients sans problème. Quand il n'y a pas de dépôts hein, dans des comptes, c'est tout un problème. Vous savez, dernièrement, ici, chez nous, à Mboujimaï, la Banque centrale a perdu, il n'y a pas 2-3 mois, 299 millions de francs congolais. qui était en dépôt, et cet argent a été détourné par les comptables d'État. C'est ainsi qu'il y a les comptables d'État en complicité avec les agents de la banque centrale. C'est là, c'était l'argent qui était en dépôt. Vous voyez, ces montants-là d'argent, ça pouvait faire de manière qu'on pouvait créer des coopératives ici chez nous en Bougimaï. Il y a eu Kadeco. Kadeco, il n'y a pas de cela, oui, 7 ans ou 6 ans, il avait aussi détourné beaucoup d'argent des impôts ainsi que des contribuables, et surtout l'argent de travailleurs de la MIBA qui épargnait l'argent là-bas. Tout ça, ce sont des mauvais souvenirs. C'est ainsi que, pour moi, je peux dire seulement que pour ce qui est des problèmes de gestion des coopératives en République démocratique du Congo, il faut toujours l'initiative de l'État à travers la BCC chercher un mécanisme de suivi auprès du personnel, de la banque et aussi des comptables d'État qui chaque fois détournent l'argent. C'est ça vraiment ma contribution, et puis j'achève en disant que il faut aussi créer la confiance auprès de la population, parce que la confiance n'est plus quand on détourne l'argent comme ça. Nous n'avons pas la confiance de mettre l'argent. Je vous avais dit la fois passée que l'Union congolaise de la banque a perdu beaucoup d'argent de grandes opérations économiques. Jusqu'à ces jours, ils n'ont pas remis cet argent. C'est ainsi que nous disons que l'État doit prendre l'initiative et des mécanismes pour sécuriser l'argent qui se trouve dans les épargnes en banque.
Merci beaucoup, Théodore, d'avoir appelé des Mbujimaï. Vous évoquez le cas, au fait, de la défaillance de votre contrôle de la banque centrale, et vous souhaitez qu'il y ait vraiment un mécanisme efficace pouvant aider à sécuriser les épargnants. Joël, vous êtes à Goma. Saïdi, vous êtes également dans la même ville que Joël. Joël, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur JR, bonjour à l'invité, bonjour aux auditeurs, de parole aux auditeurs.
Voilà, si cela ne va pas vous déranger, Joël, prière d'éteindre votre poste récepteur, comme ça on va se communiquer, vous allez nous suivre par votre téléphone.
Ok, d'accord, je pense que je suis en ligne, là vous me suivez 5 sur 5.
Oui, allez-y.
Oui, Monsieur JR, moi, quant à moi, je suis d'abord un membre de la COPEC IMARA. Mais je pense que nous, les membres de la COPEC IMARA, nous avons constaté que la faillite de cette coopérative n'est pas seulement liée à la gestion ou aux membres qui gèrent cette coopérative, comme on l'entend par les médias. Mais nous avons compris qu'il y a aussi une influence politique, et c'est cette influence politique négative sur la coopérative qui a fait à ce que la coopérative puisse tomber en faillite. Mais on ne peut pas nous le dire honnêtement, parce que c'est la Banque centrale qui a pris le lead pour essayer de mettre le gérant ou l'équipe dirigeante de la coopérative à disposition de la justice. Nous avons des témoignages noir sur blanc ici à Goma, et nous avons été victimes d'une situation presque similaire. Je crois qu'il y a un auditeur qui a parlé de Dutch International.
Dutch International, oui.
Cette histoire de Dutch International a été orchestrée par les hommes politiques de ce pays, et c'est connu de tous. Si les 21% ont été payés aux membres qui avaient investi dans Dutch International, cela était suite à une pression préélectorale. Je vous dis, c'était des pressions préélectorales. Le président Joseph Trudeau s'est impliqué pour que cet argent soit payé, pour essayer, ne plus que gagner la confiance de l'électorat de Goma. Alors, moi, je suis en train de réfléchir ensemble avec les auditeurs. Si aujourd'hui la banque centrale est prête à liquider les avoirs pour remettre les membres, nous qui sommes les membres, dans nos droits, une question reste à être posée honnêtement, et qu'ils nous le disent honnêtement aussi. Est-ce réellement en liquidant les avoirs, en récoltant les 24 millions de dollars, sincèrement, honnêtement, la banque centrale ou le gouvernement congolais va nous remettre chacun dans ses droits sans qu'il y ait encore des pressions préélectorales ou encore des pressions que vont subir un homme politique, et à son niveau aussi, il va chercher à gagner l'électorat pour dire qu'il a fait le plaidoyer. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous êtes en train de parler que la gestion des coopératives au Congo est en train de se remettre en cause. On pose des questions, pourquoi il y a tous ces investissements dans des coopératives. C'est bien, l'analyste qui est là, l'invité qui est là, il est en train de donner des idées très claires, des idées qui sont normatives. Mais est-ce que ces idées normatives, quand on donne l'agrément à ces coopératives, à ces institutions de microfinance par la Banque centrale, est-ce réellement on les donne pour aider la population congolaise, ou bien on donne ces agréments pour se retrouver, moi en tant que gouverneur de la Banque centrale, moi en tant qu'homme politique dirigeant d'une entité financière quelque part, je signe cet agrément pour que je puisse me retrouver avec des opérations retour à la fin quoique le bénéficiaire qui va investir dans cette institution de microfinance va ou ne pas se retrouver, mais moi, l'essentiel que je puisse un peu retrouver.
Merci beaucoup.
Voilà un peu monsieur JR, voilà un peu monsieur l'invité, ce qu'a été de mon intervention sur la question.
Merci beaucoup, une intervention si riche. Merci Joël, et surtout de nous avoir donné quelques précisions par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la coopérative Imara. Voilà, on va terminer avec Saïdi. Juste une minute pour vous, Saïdi, avant qu'on puisse conclure avec notre invité. Saïdi, bonjour.
Bonjour.
Rapidement, vous n'avez que 45 secondes parce que dommage, vous êtes le dernier auditeur. On a pris assez de temps.
Oui, je suis désolé. Mais ce que je voulais évoquer à la question, c'est que le problème des coopératives, c'est un problème qui commence à la base dès la fondation de la coopérative. Parce que j'ai eu la chance de travailler dans une des coopératives ici qui est tombée aussi en faillite et qui la faillite qui n'était pas même déclarée. Dès le début même de la coopérative, vous allez voir les membres qui, soi-disant, sont des membres qui créent la coopérative, mais ils n'ont pas un mot à dire dans la gestion de la coopérative. Ou, il peut dire les organes qui gèrent la coopérative. Ce sont des organes qui sont là seulement des noms, mais en réalité, ils ne font rien de leurs attributions. Raison pour laquelle vous allez trouver le membre des organes qui ont des finances dans ces coopératives, ils retirent l'argent n'importe comment, sans justification.
Ah, j'ai fait la comptabilité dedans. Ah, vous allez voilà, dommage, Saïdi, on a pris à 7 ans. On pourrait passer qu'une partie remise. On va revenir à vous peut-être très prochainement, peut-être aussi dans ce sujet. Voilà, on va conclure avec vous, Jean-Claude Tetika. On va ramasser toutes des idées. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Non, on doit retenir qu'effectivement, la faillite de la coopérative Imara et celle de d'autres dans le passé relève quand même le besoin urgent de pouvoir regarder le problème des coopératives des fonds, non seulement pour des questions liées à la réglementation et à la supervision, mais aussi à la question de la gestion. Effectivement, des questions, il faut qu'on s'assure quand même de la qualité des membres qui ouvrent ces coopératives, qui opèrent dedans. Il faut qu'on renforce un peu là. Et tout ça, il y a nécessité aujourd'hui de l'éducation quand même financière, de retourner à un certain niveau de confiance parce qu'on l'a perdu. Le message que je vais donner à la population, c'est de dire aussi, écoutez, c'est vrai qu'il y a des défaillances, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de choses positives qui sont en train d'être faites. Donc, il faut qu'ils fassent un peu confiance à la Banque centrale.
Jean-Claude Tetika, nous rappelons que vous êtes le directeur général de fonds pour l'inclusion financière. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci
et à très bientôt.
Vous. Merci très vite.
Voilà, nous disons merci à vous tous qui avez participé à ces débats. Merci également à Willem Lungamba qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Pierrot et Lameji, coordonnée et présentée par J.R. Lugembo sous la supervision de Ben Kabamba. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. C'est par ici donc qu'on met un terme à ce programme. Nous allons nous retrouver demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.